Studio Tamani, voici les informations en français.
Présentation Sikou Gadjigo, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue au sommaire de cette édition. La migration peut être une solution aux défis mondiaux si elle est bien gérée. La déclaration est de l'Organisation internationale pour les migrations. C'est à l'occasion de la Journée internationale des migrants. Les rideaux sont tombés ce 17 décembre 2023 sur le festival Vivre Ensemble à Tombouctou. Cette rencontre culturelle a répondu aux attentes selon des festivaliers. Bientôt, une nouvelle usine d'égrenage sortira des terres à Kokofata dans la région de Kita. La première pierre de l'infrastructure a été posée hier par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Tout de suite, le développement de ces titres avec Sekou Gadjigo Nuhum Dira sur la mise en onde. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Le monde célèbre aujourd'hui, 18 décembre, la Journée internationale des migrants. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, la migration peut être une solution aux défis mondiaux à condition qu'elle soit bien gérée. Au Mali, le phénomène de la migration constitue un défi et une opportunité à la fois. Si des milliers de migrants continuent de participer au développement du pays, de nombreux jeunes perdent la vie sur les routes migratoires. Le développement avec Mariam Koulibaly.
Les personnes en déplacement sont des moteurs puissants pour le développement, à la fois dans leur pays d'origine et dans celui de destination, en tant que travailleurs, étudiants, entrepreneurs, membres de la famille, artistes et bien plus encore, explique l'OIM. Elle ajoute que les migrants maintiennent souvent des liens importants avec leur pays d'origine tout en s'intégrant dans leur nouvelle communauté, où ils apportent une multitude de connaissances, expériences et compétences. Selon l'OIM, si elle est bien gérée, la mobilité peut être une pierre angulaire du développement durable, de la prospérité et du progrès. Au Mali, de nombreux migrants en détresse continuent de retourner au pays. Ces derniers mois, des vagues de dizaines de migrants ont été rapatriés volontairement des pays du Maghreb grâce au concours de l'OIM.
Vous pouvez réagir à ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Je vous le disais dans le titre, le festival Vivre Ensemble a pris fin ce dimanche 17 décembre à Tombouctou. Pendant 7 jours, de nombreuses activités socio-culturelles ont fait vibrer la cité des 333 saints. Malgré le contexte sécuritaire, organisateurs et festivaliers parlent de la réussite de l'événement. Le reportage de Issa Oumar Touboula.
Pour les participants, cette 8e édition du festival Vivre Ensemble a répondu aux attentes malgré quelques difficultés liées au contexte actuel.
Malgré le contexte sécuritaire, le festival a pu se tenir. On a vu les gens étaient mobilisés.
Ça a été bien organisé. Côté de commerçants, il y a les blocus, il n'y a pas de marchandises au niveau de Tombouctou. Il y a beaucoup de commerçants qui sont participés, et les artisans et les femmes transformatrices. Il n'y a pas de stands qui sont restés. Tous les stands sont équipés.
Cet avis est partagé par la commission d'organisation. Toutefois, Omar Baraka, assistant financier et chargé de la logistique du festival, trouve que le bilan est satisfaisant.
Il y a quand même des couvre-feux, mais nous avons pu calquer les activités du festival dans ces cadres-là et tout se déroule à merveille. Nous sommes généralement entre les 3 jours là à 8000 personnes qui fréquentent les monuments de la paix, soit du côté de la foire, soit également du côté des festivités du festival Vivre Ensemble lui-même.
Selon des participants, ces genres de rencontres contribuent à la consolidation de la paix et la cohésion sociale. À noter que le Royaume du Maroc était l'invité d'honneur de cette 8e édition.
Direction Bankas, où la 2e session du comité local d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement, en abrégé CLOCSAD, s'est tenue le 14 décembre dernier. Une quarantaine de participants, dont les maires des 12 communes du cercle, les services techniques et des ONG ont pris part à la rencontre. Le compte-rendu de notre correspondant à Bankas, Adama Dele Togo.
Cette session du CLOCSAD met en évidence les acquis et difficultés dans les 12 communes. Anselme Kamate, directeur du centre d'animation pédagogique Capté Bankas.
L'école à Bankas se porte très très mal. Alors nous avons encore 108 écoles fermées sur 240. Depuis la rentrée, nous avons été sollicités par des collectivités, des maires qui ont demandé à ce que certaines écoles rouvrent. Alors nous avons mis des anciens à leur disposition.
Les données sur cet indicateur sont collectées auprès de chaque commune par la commission technique du CLOCSAN. Ali Sidibé, préfet du cercle de Bankas, préfet par intérim du cercle de Dialassago.
Le CLOCSAN, tout le monde a compris, puisque ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Sa tenue nous permet de soutenir nos actions, de voir ce qui n'a pas marché, de comment corriger les insuffisances et de se projeter dans l'avenir. Les maires, la société civile, la sécurité, chacun a un rôle à jouer.
En 2022, dans le cercle de Bankas, le nombre de projets réalisés et réceptionnés sont estimés à 48 et ceux en cours d'exécution 44. Depuis Bankas, Adama Dele Togo pour Studio Tamani.
Après Bankas, cap sur Kidal. Après sa prise de fonction, le chef de l'exécutif régional général El Hadj Gamou a visité les différents services de l'État samedi dernier. Il a, selon lui, vu des services saccagés, pillés et laissés dans un délabrement total. Le gouverneur a rassuré les directeurs régionaux de Kidal que tout sera mis en œuvre pour la reprise des activités. Il est au micro de nos confrères de l'ORTM.
Le constat, vraiment, c'est tout à reprendre à zéro à Kidal. Tout ce qui est vraiment l'administration, il faut reprendre à zéro. Tous les services d'air de l'État. Les bâtiments ciment seulement qui restent ne sont pas tombés. Même là, il y a d'autres bâtiments qui ont des problèmes. Puisque nous sommes tous là, nous, on va servir l'État même sous les arbres. Tout l'ensemble des chefs de services qui sont là, on va continuer à servir l'État. C'est ça, souvent, il faut supporter aussi les difficultés. Pour servir ton pays, c'est comme ça. Donc nous, on va servir dans ces conditions-là, en attendant que l'État nous mette dans les conditions.
Studio Tamani à Kidal, c'est sur la radio Tisdas. Je vous le disais dans le titre également, la première pierre d'une deuxième usine d'égrenage de coton a été posée hier dimanche par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation à Kokofata, dans le cercle de Kita. Cette unité industrielle d'une capacité de 50 000 tonnes permettra de doubler la capacité d'égrenage de la filiale ouest de la compagnie malienne pour le développement des textiles CMDT. Selon le ministre Maïga, l'infrastructure contribuera au renforcement des capacités opérationnelles de la première usine CMDT, mais aussi à la création de 250 emplois permanents et plus de 1000 emplois non permanents. 9 personnes sont mortes noyées suite à un naufrage d'une pirogue dans la commune de Tangadougou, cercle de Yamfoulila. Le drame s'est produit le 15 décembre dernier entre Kouloubleni Daga et Carrière Silengue Daga. L'embarcation avait à son bord une trentaine de personnes. Selon des témoins, 20 personnes ont pu être sauvées, mais 2 autres personnes restent introuvables.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni, par l'Union européenne et la coopération espagnole.
Place à présent à la rubrique « Vérifions ». Elle porte aujourd'hui sur une vidéo partagée sur les réseaux sociaux qui prétend montrer une fortune récupérée sur des terroristes après une attaque au Burkina Faso. Info Infotox, c'est Fatoumata Kodjo qui l'a vérifié pour nous.
La vidéo postée sur TikTok montre des liasses de billets d'euros attachés dans une pièce. Une partie des billets est brûlée. Une voix robotique accompagne la vidéo avec le message suivant. Regardez bien l'argent retrouvé auprès des terroristes après une attaque au Burkina. D'où viennent ces billets d'euros? S'interroge la voix qui ajoute « La France vient à nouveau d'être dévoilée, quelle honte !» Mais, après vérification, nous constatons que c'est une ancienne vidéo sortie de son contexte. Grâce à une recherche inversée, nous avons retrouvé la vidéo originelle. Il s'agit de faux billets sculptés à la main par l'artiste espagnol Alejandro Monche. L'œuvre nommée European Dream a été présentée lors de la foire contemporaine à Madrid en 2018. La même vidéo a été plusieurs fois sortie de son contexte pour être utilisée dans des scandales en Afrique et ailleurs. Donc, cette vidéo n'a rien à voir avec le Burkina Faso.
À présent, le résumé de l'actualité de la semaine avec Moussa Agmaha.
Bonjour. Nous introduisons cette rétrospective par l'instauration d'un couvre-feu sur l'étendue de la région de Kidal. Depuis le 14 décembre 2023, la mesure va de 20h à 5h du matin jusqu'à nouvel ordre. Cette décision du nouveau gouverneur de Kidal vise à prévenir tout acte de violence dans la région. Autre actualité, c'est le départ définitif de la MINUSMA du Mali. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité au Mali a clos ses portes au Mali lundi dernier à Bamako en présence des autorités maliennes. Le Haut Conseil national de lutte contre le sida a réuni les acteurs autour d'un cadre stratégique ce vendredi dernier à Bamako. Selon ses responsables, ce document permettra d'orienter les acteurs dans la mise en œuvre des stratégies de lutte contre la pandémie. Nous terminons par la clôture de la 8e édition du festival Vivre Ensemble dans la cité des 333 saints. Malgré le contexte sécuritaire, les organisateurs et participants notent un sentiment de satisfaction.
Et c'est ce qui met fin donc à cette édition que vous pourrez réécouter sur Viamo en appelant au 37-321 et également sur l'application Studio Tamani téléchargeable sur Play Store.
Attention, la dengue existe au Mali. De nombreux cas sont enregistrés dans le pays. Ousmane Touré, un malade guéri, nous parle des symptômes de la maladie.
Moi, j'ai eu la dengue. Ça s'est d'abord manifesté par beaucoup de courbatures, de violents maux de tête, des nausées. Je me sentais très, très, très faible également. Mais le fort, c'est vraiment les courbatures qui m'ont fatigué. On a mal absolument partout, de la tête aux pieds.
La dengue n'est pas à prendre à la légère. Seule une prise en charge rapide augmente les chances de guérison, affirme Monsieur Touré.
Ce n'est ni un palu, ni autre chose, c'est la dengue. Et c'est vrai que c'est provoqué par les moustiques et il faut prendre cette maladie au sérieux parce qu'elle est en train de faire énormément de mal, énormément de dégâts autour de nous. Il faut se faire dépister. En cas de besoin, n'allons pas seulement faire le test du palu, faisons également le test de la dengue pour nous rassurer.
Ceci est un message des studios Tamani.
En partenariat avec le ministère de la Santé et du Développement Social.
Le magazine Parlons de l'environnement de ce matin porte sur les conclusions de la COP28 qui a pris fin la semaine dernière à Dubaï.
C'est quoi les énergies fossiles? Qu'est-ce qui les diffère des énergies renouvelables? L'environnementaliste Moussa Touré répond.
Une énergie fossile est un type d'énergie qui provient des réserves composées, principalement des carbones. Les énergies fossiles sont ainsi des énergies destructrices de l'environnement, alors que les énergies renouvelables sont des énergies qui ne sont pas nocives à l'environnement. Elles proviennent des éléments naturels comme le soleil et le vent.
Pour les représentants de la société civile malienne, les accords de Dubaï manquent de clarté et de fermeté. C'est en tout cas ce qu'affirme Dr Ibrahim Togoula.
Moi, je pense que les conclusions de la COP sont très très mitigées, comme presque toutes les COP. On avait pensé que l'annonce sur le triplement des capacités des énergies renouvelables au niveau mondial allait aussi être suivie d'une décision, d'une ligne de financement très claire.
Ils prônent d'ailleurs l'autosuffisance et la recherche de solutions locales.
Et donc, comme ça nous concerne nous-mêmes directement, les ressources que nous avons, c'est ce que nous avons. Il n'y a pas d'autres ressources qui viennent d'ailleurs. Donc nous pouvons produire l'énergie partout avec les énergies renouvelables. Là où on est, il peut y avoir des kilowatts, des mégawatts, des gigawatts là où on est. Nous pouvons vraiment avoir des voitures, des camions non polluantes. Nous pouvons faire les mines sans trop de déranger l'écosystème.
Toutefois, certaines populations locales font de l'espoir sur ces accords de Dubaï. C'est le cas à Menaka, Yelimani, dans la région des Kayes, Bandiagara, Tombouctou, Yoroso et le district de Bamako. Certaines populations estiment que les autorités des nations moyen-polieuses doivent insister et se montrer fermes face aux refus des puissances qui émettent les gaz à effet de serre.
Nous sommes ravis. Les décideurs doivent toutefois tout faire pour concrétiser ce projet. Il y a aussi lieu de penser à subventionner les énergies renouvelables.
Moi, personnellement, je suis content car cela signifie qu'on aura une solution au manque d'électricité auquel nous faisons face.
Donc, nous remercions les grandes puissances pour leur
engagement à vouloir contribuer à la réduction des effets du changement climatique dans le Sahel.
Il ne suffit pas seulement de dire aux populations, voici la nouvelle solution, il faut un accompagnement.
C'est une très bonne nouvelle.
Je pense que c'est une bonne chose. Ce que moi je demande à nos autorités, que ce soit une décision très forte, que ce ne soit pas seulement sur papier, je demande qu'il y ait des actions concrètes.
C'est un point de vue partagé aussi par certains experts. Ils soutiennent que les autorités se doivent d'être plus engagées pour obtenir la réalisation des projets annoncés. Docteur Issa Ouattara est environnementaliste.
À ces rythmes-là, vraiment, je crains que ça ne soit une rencontre de plus. Et chaque fois, il y a des engagements qui sont pris, mais malheureusement, qui ne sont pas tenus. Voilà, par les principaux pollueurs mondiaux, qui sont les grandes puissances.
Pour Dr Issa Ouattara, avec plus de lobbying, les pays en voie de développement pourront inciter à un vrai changement.
Il faut beaucoup de plaidoyer de la part des organisations de la société civile, notamment les ONG, les associations. Beaucoup de lobbying également. Cela va amener les responsables politiques et les décideurs et face à leurs responsabilités, face aux engagements qu'ils ont pris.
Pour rappel, le prochain grand rendez-vous sur le climat est prévu du 11 au 22 novembre 2024. Elle se tiendra au pays du Caucase. Fin de ce magazine, parlons de l'environnement. Il a été présenté par Fatih Attara. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine